Fortin et Max Larouche.
On en jase, les amis, avec Jeff Fortin et Mathias Turcotte pour les trois prochaines semaines. Denis Gravel qui fait son retour du côté de Boulevard pour une cinquième année avec Véro Bergeron et Audrey Pinchot. Ça sera dès 14h. Hey, merci, hein? Je le disais ce matin, je leur dis ce midi, 418-971-1001, là, c'est ouvert à toutes les opinions. Ce matin, on m'a convaincu que le gouvernement avait mal fait d'annuler le rassemblement anti-avortement au centre des congrès. Les auditeurs, Pascal CV, Alex Laramé et Christine Saint-Pierre m'ont convaincu de ça.
Il y avait beaucoup de personnes contre toi, de ce que je comprends.
Et je suis très ouvert d'esprit, donc j'ai fait « ben oui, qu'il y a donc ça ». Pourquoi pas, c'est vrai, c'était une bonne idée finalement. J'en ai conclu que le gouvernement peut dire « ça n'a pas d'allure ce rassemblement-là, mais il ne peut pas l'annuler, parce que c'est de la liberté d'expression ». Bon. J'étais très d'accord. Donc, j'étais d'accord avec le jugement. Alors, tu vois, je suis ouvert d'esprit. Et ici, excellent texto qui est rentré d'une personne qui disait « Hey, t'exagères, voter pour de la violence et des propos haineux si je vote PCQ. » Parce que cette personne dit « Moi, je suis de droite économique et je vote PCQ pour ça. » Ça veut pas dire que je complotisse mon ami, bien au contraire. « Hey, merci. » Merci infiniment. Je comprends pourquoi tu vas voter pour le PCQ. Donc, je suis vraiment content. Je suis très, très, très content quand vous nous écrivez. Puis, je fais preuve d'une belle ouverture d'esprit. J'aime beaucoup être challengé dans mes idées, mes opinions. Il y a Mathias, tu viens de me faire changer d'idée. Moi, j'étais pour un Québec en piste cyclable.
Tu pars en vacances pendant 3 semaines, tu reviens, t'es rendu green, piste cyclable partout, fini la voiture. Hey, le projet d'enlever les voitures dans le Vieux-Québec, moi j'étends ça, plus de voitures dans Saint-Roch, plus dans Saint-Sauveur.
Je suis revenu à gauche de l'échiquier politique, toi, ça a pas d'allure. OK, je vais m'en remettre au centre comme j'ai toujours été. Bon, avant qu'on parle avec François Larochelle, ex-diplomate au Moyen-Orient, et fellow à l'Institut d'études internationales de Montréal à l'UQAM. Mathias, qu'est-ce qu'on doit suivre dans l'actualité?
Oui, on y va rapidement. Les agents de bord et WestJet qui ont conclu une entente de principe ce matin, ce qui met donc fin à la grève qui avait commencé hier à peine. Là, plusieurs centaines de vols qui ont été annulés. Va rester à ce que les agents de bord acceptent ou refusent cette entente de principe-là. Je tiens à préciser, si jamais ils la refusent, ça ne veut pas dire qu'on repart en grève pour autant. Là, ce qu'on nous dit, en gros, c'est que les agents de bord, dans cette entente-là, recevraient un crédit de vol supplémentaire justement pour pallier contre certaines heures au sol qui ne seraient pas payées. Un homme âgé dans la quarantaine qui s'est noyé du côté du lac Saint-Jean vendredi dernier. C'est vers 16h30 que les autorités se sont rendues sur place en raison d'une personne en détresse. Il a été retrouvé mort. Pour l'instant, l'enquête n'a pas nécessairement révélé les circonstances exactes du drame. On ne sait toujours pas, on hésite entre deux hypothèses, s'il s'agit d'un malaise ou encore d'un homme qui a surestimé ses capacités de nageur. Ça se rajoute donc aux 9 morts qui ont eu lieu pendant les vacances de la construction. Et je termine avec Donald Trump qui aurait repris les négociations aujourd'hui avec l'Iran. On a suspendu les bombardements américains du côté de l'Iran, justement. Du côté de l'Iran, on dit non, on n'est pas en discussion avec les États-Unis. C'est un scénario qu'on a déjà vu de multiples fois qui se répète.
Exactement, un scénario qu'on a depuis le 28 février. Et pour parler avec nous de cette situation très explosive au Moyen-Orient, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, nous avons avec nous François Larochelle, ancien diplomate au Moyen-Orient et fellow à l'Institut d'études internationales de Montréal à l'UQAM. Monsieur Larochelle, merci beaucoup pour votre présence avec nous.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Monsieur Larochelle, je lisais ce matin que l'Iran négocie avec le sultanat d'Oman pour le détroit d'Ormuz. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ceci?
Bien, en fait, si effectivement les négociations débloquaient ou amenaient une solution, ce serait un scénario qui probablement pourrait aider Trump. Parce qu'apparemment, ce sur quoi les Iraniens et les Omanais travaillent, ce serait de trouver un compromis pour que les bateaux puissent passer. En fait, c'est pas très imaginatif, mais que les bateaux pourraient passer à mi-chemin entre les côtes de l'Iran et les côtes d'Oman. Et à ce moment-là, le blocus iranien cesserait, ainsi j'imagine le blocus des Américains, et ben, le détroit d'Ormuz serait réouvert, ce qui permettrait une baisse des prix du pétrole et aussi permettrait aux pays de la région d'exporter leur pétrole, là, ce qu'ils peuvent pas faire actuellement, ou du moins ils le font de façon beaucoup plus limitée.
Si jamais on parvient à une entente et que Détroit d'Ormuz réouvre grâce à cette entente-là, on s'entend qu'il y a de fortes chances que ça vienne avec un paiement, par contre?
Ces négociations-là, évidemment, il n'y a pas eu de. D'abord, c'est pas fini, puis il n'y a pas eu non plus, là, ça n'a pas été rendu public. Alors, qu'est-ce qui se passera en termes de tarifs ou de droits? C'est un des objectifs, semble-t-il, que les Iraniens ont, de pouvoir faire de l'argent avec le passage des bateaux. Est-ce que ça serait un des éléments de l'accord? Est-ce que les Omanais pourraient faire la même chose? Ça reste à voir, mais il y a déjà d'autres endroits, d'autres détroits comme ça, où les bateaux, les propriétaires des bateaux doivent payer des frais, mais c'est sur une base volontaire, soi-disant parce qu'ils obtiennent des services. Alors, ça pourrait peut-être être la solution ou une des choses qui pourrait satisfaire à la fois les Omanais et les Iraniens, mais ça reste à voir, là, il est trop tôt, parce qu'il n'y aura peut-être pas d'accord non plus. Là, donc, attendons de voir si effectivement ça débouche sur quelque chose.
Si jamais l'Iran venait justement percevoir de l'argent, que ce soit de façon volontaire ou non, avec le détroit d'Ormuz, est-ce que ça peut être dangereux pour les autres pays au Moyen-Orient? Parce qu'on sait que l'Iran finance des groupes terroristes comme le Hezbollah, le Hamas, ou voire même les Houthis au Yémen.
Écoutez, c'est sûr qu'il n'y a personne, il y a peu de pays qui veulent que le détroit d'Ormuz devienne propriété privée, si on peut dire, des Iraniens, parce que personne ne veut se retrouver entre les mains du régime de Téhéran là, qui ferme et ouvre le détroit d'Ormuz à sa guise. Mais il semble que les négociations actuellement se font aussi, consultent les Omanais, consultent aussi les autres pays de la région. Alors, si ces pays-là sont prêts pour que le détroit d'Ormuz réouvre à payer sur une base volontaire des frais, que ce soit à l'Iran ou à Oman, je vous dirais que probablement, pour l'instant, c'est probablement une solution qui pourrait être permanente ou même intérimaire, qui pourrait satisfaire beaucoup de gens dans la région. Mais évidemment, ça serait nouveau parce qu'avant, le détroit d'Ormuz était ouvert à tout le monde. Mais à cause de l'attaque israélo-américaine, les Iraniens ont compris qu'il y avait un atout majeur qui était le contrôle du détroit d'Ormuz, et là, ils veulent pousser ça au maximum.
Mm-hmm. Pas le choix de constater qu'avec cette situation-là, justement, où l'Iran pousse au maximum le contrôle du détroit d'Ormuz, c'est une défaite américaine.
Écoutez, encore, comme je vous dis, c'est peut-être vite en affaire, mais disons que ça n'a jamais été très clair de toute façon quels étaient les objectifs au départ de la guerre. Mais c'est clair que c'est effectivement, si le détroit d'Ormuz n'est plus ouvert là, à tout le monde comme c'était le cas auparavant, c'est clair que c'est un recul pour les Américains qui, franchement, jusqu'à maintenant, c'est difficile de voir qu'est-ce qu'ils ont obtenu de cette guerre, parce que bon, le régime précédent a été décapité, mais il a été remplacé rapidement. Il y a absolument aucun développement du côté du nucléaire. Les Iraniens semblent encore dotés de missiles et de drones. À ce stade-ci, c'est effectivement difficile de voir qu'est-ce que les Américains ont gagné dans tout ça. Et en plus, c'est une guerre qui leur a coûté extrêmement cher et qui continue d'ailleurs de leur coûter très cher.
Je continue avec le Moyen-Orient. Au début du week-end, Donald Trump annonçait qu'avec son conseil de paix, ils ont conclu une entente pour le désarmement du Hamas dans la bande de Gaza. Mais Israël ne semble pas y croire. Qui on doit croire, Donald Trump ou Benjamin Netanyahu?
Écoutez, le Hamas a indiqué qu'ils étaient prêts à se désarmer. Le problème, évidemment, c'est de mettre ça en œuvre. Pour Netanyahou, c'est pas bon du tout parce que là, il est en campagne électorale. Alors, lui, il veut pousser le bouchon le plus loin possible. Alors, d'accepter qu'il y a un échange entre... Parce que le deal, d'après Trump, ce serait que le Hamas, en retour du désarmement, obtienne de façon graduelle un retrait des troupes israéliennes de Gaza. Et les Israéliens disent non, nous, on n'accepte pas ça, on va quitter simplement quand tout le désarmement sera complété. Alors, ils peuvent jouer sur les mots comme ça très longtemps, et Netanyahou n'a pas du tout intérêt à ce que ce projet-là d'entente, là, si effectivement, bon, il semblerait du moins qu'Hamas soit d'accord. En tout cas, cette annonce de Trump, les chances que ça soit mis en place avant les élections en Israël, là, qui ont lieu à la fin octobre, les chances que ça soit mis en place sont plutôt rares, sont plutôt basses. Ceci dit, peut-être que Trump va continuer de faire pression sur Netanyahou pour que ça bouge. Mais ça encore là, ça reste à voir jusqu'où Trump est prêt à aller avec Netanyahou.
Et en terminant, M. Larochelle, vous êtes ancien diplomate au Moyen-Orient. Qu'est-ce que vous voyez dans votre boule de cristal pour les prochaines semaines? Est-ce qu'on va se réveiller au mois de septembre? On va encore entendre Donald Trump menacer l'Iran puis dire qu'on est près d'un accord?
Je vous dirais que je suis pas mal d'accord avec vous.
Vous nous rassurez pas, là, M. Larochelle!
Mais le problème, d'abord, c'est très difficile de prédire au Moyen-Orient. Mais
en effet.
Ce qui n'aide pas, c'est Trump. C'est-à-dire que les Israéliens ne se fient pas à lui. Et négocier avec quelqu'un qui dit une chose une journée, qui dit le contraire le lendemain, c'est extrêmement difficile. Alors, j'ai l'impression que les Iraniens sont très méfiants, avec raison. Ils se disent, nous, on va jouer le temps, on va jouer l'horloge. Et plus on approche des élections de mi-mandat au Congrès américain, plus on a des chances que Trump fasse des concessions. Mais encore là, ça reste à voir. Mais malheureusement, j'ai comme l'impression que le scénario qu'on voit là, des attaques, une accalmie, je vous dirais qu'à ce stade-ci, dans ma boule de cristal, si on peut dire,
c'est ce que vous voyez.
C'est malheureusement ça que je vois, à moins qu'il y ait vraiment un accord de dernière minute qui satisfasse Trump. Mais encore là, deux jours après, il peut décider que l'accord ne tient plus. Alors, il n'y a aucune confiance entre les parties et c'est très difficile de négocier un accord quand les deux parties ne se font pas confiance.
Ah, c'est clair, je suis tellement d'accord avec vous. Donc, dans votre boule de cristal, jusqu'aux élections de mi-mandat, on va vivre ça. Puis après ça, pardonnez-moi mon expression, mais si jamais Donald Trump et les Républicains mangent une varlope aux élections de mi-mandat, bien là, peut-être ça va changer.
Possiblement. Mais encore là, comme je vous dis, il est toujours possible aussi que Trump se réveille un matin et décide là, de bombarder.
En effet.
Alors, c'est pour ça que je vous dis, là, faire des prédictions dans le contexte actuel, c'est extrêmement difficile. Mm-hmm. Mais comme je vous dis, oui, effectivement, je pense qu'on va encore avoir une période d'incertitude là, encore pendant un bon bout de temps.
Monsieur Larochelle, François Larochelle, ancien diplomate au Moyen-Orient, fellow à l'Institut d'études internationales de Montréal à l'UQAM, merci infiniment pour le temps que vous avez passé avec nous ce midi. Et on va sûrement se reparler en cours de saison parce qu'il va encore avoir des choses à jaser sur le Moyen-Orient.
Parfait. Ben à la prochaine.
À la prochaine. Merci beaucoup, François Larochelle, un spécialiste des conflits au Moyen-Orient. Il a été diplomate là-bas, là, une vingtaine d'années, donc s'y connaît très bien. Fait que Mathias, c'était pas juste mon 3 semaines de vacances.
T'étais pas trop dépaysé, là?
Ben, je remercie vraiment Donald Trump, parce que dans le fond, je suis revenu en onde aujourd'hui après 3 semaines, puis j'ai pu parler de la même chose.
Puis, pour te donner une idée, Jeff, lundi dernier, c'était la même chose. On faisait une nouvelle comme quoi, puis je niaise pas, là, c'était exactement ça. Le pétrole descend parce que Donald Trump a annoncé recommencer les négociations. L'Iran disait, non, on négocie pas.
C'est ça.
Le mercredi, puis là, on surveillera si ça va être mercredi cette semaine, là. Mais le mercredi, Donald Trump a décidé de bombarder l'Iran. Mm-hmm. Fait que si moi, je veux observer dans ma boule de cristal, je dirais que mercredi, il y a de bonnes chances que Trump bombarde l'Iran.
La boule de cristal de Mathias Turcotte, j'adore ça. Il y a des problèmes de circulation?
Ouais, ben ça, j'ai pas besoin de regarder dans ma boule de cristal pour vous les dire. 20 direction ouest entre Taniatin et Président Kennedy, c'est très, très difficile au rouge. En direction est, c'est entre Taniatin et Avenue des Églises. Puis là, préparez-vous, c'est
c'est difficile sur les routes dans beaucoup de secteurs. Il y a un problème présentement, le pont direction nord sur la 73. Il y a un ralentissement qui commence à se créer. Je ne sais pas s'il y a un accident sur le pont et que je n'ai pas encore d'informations, là, mais ça se peut que le ralentissement s'accélère au cours des prochains instants. Henri IV, direction sud, hauteur Charest, c'est au rouge. Charest, direction est, hauteur justement d'Henri IV, ça remonte jusqu'à Duplessis, c'est à l'arrêt. Même chose, capitale, direction est, entre Pierre-Bertrand et boulevard Neuvial, c'est au rouge. Et Laurentienne, direction sud, pas mal un bon ralentissement pour accéder à capitale. Quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021, c'est par texto.
Merci beaucoup, Mathias Turcotte. Je fais une petite parenthèse sur la discussion qu'on a eue qui a fait excessivement réagir, c'est-à-dire sur un politicien qui enlève tous ses tweets et ses X et ses publications sur les médias sociaux sur une période de 7 ans parce que, oui, il nous a comparé à des femmes battues en théâtre de COVID. Puis aussi, les agriculteurs, c'était quoi, non?
Ah, c'était des hosties de voleurs, c'est ceux ça. Qui soutiennent la gestion.
Exactement. Ben, Charles-Étienne nous écrit à chacun sa façon de voir les choses parce qu'il y avait un auditeur qui nous avait réécrit « Moi, je vote pour le PCQ tout simplement parce que je suis à droite au niveau économique. » Charles-Étienne dit « Je me considère aussi de droite économique, mais il est hors de question que je vote pour le Parti conservateur du Québec. D'ailleurs, c'est quoi cette maudite habitude des partis de droite de toujours avoir un bouffon pour les diriger? » Bon, là où je suis pas d'accord, moi, j'ai beaucoup de respect pour Éric Duhaime puis du respect pour la façon qu'il montre ces choses puis la persévérance qu'il a en politique. Par contre, où je suis d'accord, c'est pourquoi les partis de droite s'associent toujours à des groupes extrémistes
ouais.
qui font complètement fuir le reste des électeurs.
Mais pourquoi ils font ce choix-là? Parce que, en toute logique, au Québec puis au Canada, là, si, mettons, tu regardes la courbe politique, automatiquement, le parti le plus à droite, qu'il soit d'extrême droite ou pas, le parti le plus à droite va attirer les extrêmes parce que c'est l'option de droite.
En effet.
La personne d'extrême droite, ben c'est l'option qui va la rejoindre le plus, même si le parti c'est n'est ça. Pas à l'extrême. Tu t'en vas à gauche, c'est le même principe.
Oui.
Ton parti plus à gauche va attirer les extrémistes de gauche.
Ah oui, les marxistes-léninistes de ce monde.
Que tu le veuilles ou pas, ces personnes-là vont en devenir dans ta base électorale automatiquement.
Donc, à cet effet-là, durant mes vacances, j'ai vu la naissance de Démocratie directe.
Non. Ah ben ça va presque aider le Parti conservateur.
Je me suis amusé sur les médias sociaux. T'as pas idée comment je me suis amusé à écouter les vidéos et à lire les commentaires.
T'as-tu compris comment ça fonctionnait? Parce qu'on se posait la question la semaine passée.
Pas encore, pas encore, mais sûrement qu'à mon 52e vidéo, je vais le comprendre. Ben là, le Parti conservateur du Québec a une chance en or de se séparer de ces hulu-berlus-là qui polluent leur espace public. Laissez-les à Démocratie directe. Puis revenez juste un petit peu plus vers le centre, puis des électeurs comme moi vont voter pour vous autres.
C'est un beau message, ça, Jeff. Laissez des extrémistes à Démocratie directe, puis vous autres, concentrez-vous sur vos vrais enjeux. Ben, c'est une bonne stratégie.
Mais non, mais c'est vrai. Puis là, vous allez risquer d'attirer des électeurs comme moi, qui est plus au centre, comme je le dis, un petit peu plus à droite au niveau économique, un petit peu plus à gauche au niveau social. C'est mon passé dans le communautaire, je l'assume. Alors, débarrassez-vous de ces gens-là. Laissez-la démocratie directe. Et quand je voyais les posts de démocratie directe. OK, on veut 9980. Là, j'étais là, mais non, mais ouais, on a.
C'est décourageant. Pour vrai, puis tu sais, c'est correct. Là, peu importe la partie a droit de se lancer, mais tu sais, c'est comme plein de personnes. T'as Éric Gravet, t'as Sarto Lacroix de 9999, puis plein de personnes qui se sont lancées de même. Le live d'ouverture pour annoncer leur participation au parti.
C'était incroyable.
C'était que des sacres. T'avais un sacre aux deux mots.
Incroyable.
Comment tu veux prendre ça au sérieux quand ça passe sur temps à sacrer?
Sur Facebook, j'ai lu le parti Rhinocéros est en train de revivre de ses sons. Ah, ils m'ont amusé durant mes vacances, démocratie directe. Ah, ça prend tout pour faire un monde. OK, après cette courte pause à l'émission, on en jase. Je voulais te dire, j'étais content de refaire de la radio après 3 semaines de vacances. Ah, stiff que je suis content. Mylène Bégin, éleveuse laitière, copropriétaire à la ferme Princy, sûrement une sud-voleuse, selon Dominique Dumas, va être avec nous. Elle, c'est une agriculteure, travaille très fort, doit travailler 100 heures par semaine. Elle est sur les médias sociaux. Elle fait une présence sur les médias sociaux. Pourquoi? Pour justement démystifier les mythes. Peut-être dire, hey, inquiétez-vous pas, on prend soin de nos animaux. Nous autres, on n'est pas des voleurs qui prennent pas soin de leurs animaux juste pour faire de l'argent. Sa présence sur les médias sociaux est très appréciée, mais elle reçoit aussi beaucoup de commentaires haineux.
Ça m'étonne. Je vois pas qui pourrait être fâché de ce qu'elle fait.
Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui sont fâchés de mon truc qu'elle prend soin de ses vaches.
Eh bien, ça, c'est des particuliers.
Hein. Ouais, quand je dis que ça prend tout pour faire un monde, ben on va jaser avec Mylène Bégin au retour de cette pause à l'émission On en jase.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase.